With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'application Stop Covid, déployée début juin sur la base du volontariat. Elle vise à enrayer la propagation du Covid-19 en traçant numériquement les utilisateurs, en alertant les personnes contacts des malades. Stop Covid, stop ou encore, c'est avec Francin Bervière, PDG du Bécom, agence de conseil spécialisée en protection du secret et souveraineté de la donnée. Ses défenseurs la jugent utile. Ses détracteurs estiment elle qu'elle est liberticide. L'application Stop Covid, destinée à tracer les malades du nouveau coronavirus, divise fortement. Le gouvernement insiste notamment sur la qualité d'un projet franco-français. Il loue le secret des données recueillies de cet outil qui utilise la fonction Bluetooth et non la géolocalisation. Les détracteurs, que ce soit société civile, organisation indépendante, opposition politique, dénoncent eux des zones d'ombre du code de cette application, des risques de dérive de ce traçage numérique ou encore une mise en place trop tardive de cet outil dans la gestion de la pandémie. Qu'y a-t-il dans les entrailles de l'application Stop Covid? Quels sont ses points forts? Quelles sont ses fragilités? Quel intérêt ou quel risque à installer l'application sur son propre téléphone portable? Pour répondre aujourd'hui dans Minute Papillon, Francin Bervière, PDG du Bécom, agence de conseil spécialisée en protection du secret et souveraineté de la donnée. Revenons tout de suite aux arguments des défenseurs de cette application. C'est un projet français, c'est un outil qui fonctionne par Bluetooth et non par géolocalisation.
Sur le premier, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Pour une fois que la France se décide à produire du numérique par elle-même, on ne peut que s'en féliciter. Sur la partie Bluetooth, donc cette technologie intégrée dans tous les smartphones sur laquelle la France a décidé de s'appuyer, c'est un bon choix parce que c'est une technologie qui va apporter le plus de précision disponible sur un smartphone. En contrepartie, je ne crois pas que cette technologie telle qu'elle a été choisie par la France, en se détachant complètement des API qui étaient proposées par Apple et Google. Les API, ce sont des petits programmes qui permettent d'interconnecter un logiciel que l'on développerait spécialement pour un Android ou pour un iPhone et qui permettrait de s'interfacer avec l'ensemble de la technologie du terminal. Et ces API-là ont fait gros débat il y a 2 mois quand on a commencé à parler de Stop Covid. On a dit qu'il ne fallait surtout pas y aller. Et c'est vrai, mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment s'en passer non plus. Et je doute que l'application soit réellement efficace sur un plan technique en s'appuyant sur la technologie Bluetooth et en ne respectant pas le cahier des charges de Google, l'éditeur de l'Android, et de Apple, l'éditeur de l'iPhone.
Parmi les détracteurs, on évoque un outil liberticide. Ça, c'était Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé. Notamment, il pointe l'insécurité par rapport aux données personnelles. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un risque sur ces données avec cette application?
Du peu de schémas d'architecture que j'ai vu sur ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée du programme, c'est-à-dire comment il va générer une information, qu'est-ce qu'elle va contenir, par où elle va passer, qui va la gérer, qui va la renvoyer, qui va la traiter. On n'a pas tout le cahier des charges, hein, il n'a pas été publié intégralement. Mais ce que j'ai pu en percevoir en tous les cas, c'est que je n'ai pas les assurances effectivement que le processus de pseudonymisation ne permette pas ou empêche toute réversibilité. La réversibilité, c'est ce qui permettrait à partir d'une donnée pseudo-anonymisée de remonter l'origine de cette donnée et d'aller chercher l'identifiant réel de la création ou du détenteur de cette information. Et à ce moment-là, donc, on retrouve la donnée personnelle, celle que l'on souhaite tant cacher et anonymiser pour que justement on puisse préserver les libertés individuelles. Dans le cadre de l'application française, il me semble que ce ne soit pas très clair et je n'en suis pas étonné parce que la France a une culture très particulière avec les bases de données et les fichiers et elle considère que plus elle peut avoir d'informations, plus le fichier sera efficace. n'est pas forcément dans un but liberticide au départ, c'est plus dans un but de pouvoir s'assurer qu'on va avoir les bonnes informations pour faciliter le processus d'investigation et d'enquête épidémiologique que Stop Covid est censé apporter. Voilà, donc je crois que ce n'est pas border. Il y a en Suisse, par exemple, et en Finlande, ils ont utilisé les API d'Apple, mais ils ont trouvé un moyen d'anonymiser le système d'une telle manière que la réversibilité n'est pas possible. Et donc, du coup, ils ont en fait trouvé le meilleur des deux mondes, eux.
Vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les données pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, on va dire, en résumant grossièrement. Est-ce que vous pensez que d'ici le 2 juin, d'ici la mi-juin ou fin juin, ça pourrait changer ?
Ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée, peut-être ce serait plus une fuite, parce que comme il y a des acteurs privés qui ont participé au développement de cette application avec l'INRIA, il y a par définition une protection de la propriété intellectuelle que certains acteurs voudraient conserver, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Malgré ça, ils ont quand même publié une grande partie du code source pour que justement on puisse tous s'assurer par nous-mêmes qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de backdoors ou de face cachée de l'application. Cela dit, ils ont juste publié une partie du code source, pas l'intégrité. Et du coup, pourquoi pas l'intégrité ? Peut-être pour préserver la propriété intellectuelle, ça c'est un bon argument. Mais on est dans un défi de confiance complet au sujet du Covid vis-à-vis du gouvernement, en raison de toutes les allégations qu'il y a pu y avoir depuis le début de l'histoire. Et du coup, bah forcément, on n'est pas non plus très en confiance avec ce processus. Et puis la France a une culture très particulière face à ses libertés. Donc tout ce qui peut, d'une manière directe ou indirecte, l'impacter, bah forcément, il y a des réactions. Je pense que c'est bien normal. Et il en faut d'ailleurs.
D'autres détracteurs politiques, comme la socialiste Cécile Untheimer ou le chef de file des Les Républicains Damien Abad, jugent que cette application, elle arrive trop tard.
Je ne suis pas un spécialiste de sujet, mais en tout cas, tous les épidémiologistes disaient il y a plus de 2 mois et demi, aussi bien les enquêteurs santé de l'ARS que les investigateurs de l'OMS, cette application n'a de sens que si au moins 60 à 65% de la population, dans sa totalité, des 65%, la détiennent. Ce qui est technologiquement impossible en France, parce qu'on a à peine 75% de la population qui a un smartphone, et dans ces 75%, on va considérer qu'il y a à peu près 25 ou 30% des personnes qui sont éligibles à cette application. Parce qu'il y a des vieux smartphones qui ne vont pas être compatibles, etc., etc. Donc, de toutes les façons, pour le moment, si tous ceux qui voudraient l'installer l'installent, ça représentera une fraction de la population. Et c'est trop tard à un deuxième titre, c'est que l'épidémie est en train de chuter, littéralement. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois, c'est que si jamais on devait avoir un nouveau pic de pandémie, peut-être à cet automne ou à cet hiver, eh bien, si l'application est déjà installée sur les smartphones, là, ce sera extrêmement utile, effectivement, pour avoir une vraie efficacité d'empêcher une montée d'épidémie. C'est ce qui s'est passé en Chine sur les reprises, c'est ce qui s'est passé à Singapour également. Et ça, ça a plutôt bien marché. Donc, l'application déployée trop tard, ça fait un effet bœuf. En revanche, pas mal d'utilisateurs avaient oublié qu'ils l'avaient installée. Et puis, quand il y a eu un pic qui est reparti, on a pu le contrôler tout de suite. Donc là, elle a une réelle efficacité.
Dans les organisations et structures et associations, il y a des voix qui sont discordantes. La CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, s'est prononcée favorablement avec des réserves. Vous me disiez, c'est normal.
Oui, parce que la CNIL est une instance dont le président est un haut fonctionnaire nommé par le gouvernement et son indépendance est aujourd'hui absolument plus démontrée. La CNIL n'a pas fait grand-chose depuis un bon moment. Hein. C'est assez rare qu'elle donne des avis, donc on peut être content que pour une fois, ils nous sortent quelque chose. Depuis 2 ans, ils sont très orientés sur la réglementation de la RGPD, son application. Et pour le reste, et en ce qui concerne les bases de données, il y a eu le vol de données de la base de données Ariane du ministère des Affaires étrangères. C'est la liste de tous les expatriés français dans le monde qui a été intégralement pompée. Ça n'a pas du tout choqué la CNIL. D'autres associations forcément un peu plus indépendantes, peut-être avec des orientations politiques un peu plus libertaires, ont immédiatement réagi parce que le processus de conservation des données, c'est-à-dire qui va être détenteur du serveur qui va conserver la donnée. Ça, c'est une question qu'on a posée. Moi, je n'ai pas trouvé la réponse encore. Si c'est Orange, par exemple, qui est un opérateur privé, hein, aujourd'hui, qui va conserver cette donnée-là, ça me crée un problème, moi, personnellement, parce que Orange a des interactions économiques avec d'autres États dans le monde, dont les Américains. Et aujourd'hui, je n'ai aucune faculté d'audit qui me permette de m'assurer que la donnée Stop Covid qui me concernerait et qui pourrait être hébergée chez Orange, parce que c'est Orange qui a été choisi, soit totalement souveraine, du coup. Et là, on en revient à votre question du début. Est-ce que l'application, c'est bien qu'elle soit souveraine? Oui, c'est absolument génial. Moi, je pense que c'est dommage qu'elle n'ait pas été européenne, pour le coup, ce qui avait été tenté il y a un mois et demi, mais tout le monde est finalement retourné dans ses tranchées. Parce que pour tous ceux qui voyagent, comme moi, il va falloir que si je veux adhérer à Stop Covid, que j'installe une application par pays que je visite. Et ça, c'est malheureusement pas une bonne démonstration de l'efficacité de l'Europe telle qu'on souhaiterait la voir aujourd'hui.
Et d'ailleurs, à titre personnel, vous installeriez Stop Covid ou pas ?
Non, absolument pas. La question essentielle, c'est la question de confiance entre l'affaire des masques, la chloroquine, les hôpitaux, la gestion des hôpitaux, etc. Il y a un défi qui est quand même assez important pour le gouvernement aujourd'hui, à essayer de reconquérir la confiance des Français au regard de sa capacité à gérer, en tout cas, les services publics pour lesquels nous sommes partie prenante. Ce qui se passe avec ces données-là, c'est qu'il n'y a pas écrit dans la loi. Je ne l'ai pas vu en tous les cas dans le projet. Mmh. Alors, il n'y aura pas de projet de loi parce que ça va être signé par ordonnance. Il n'y a pas écrit dans la proposition du décret la garantie avec une faculté d'audit par des externes indépendants que ces données seront détruites au-delà des 21 jours, parce que les épidémiologistes disent, nous, c'est 12-14 jours qu'il nous faut, 21 pour des raisons de sécurité, au-delà de 21, la donnée, elle n'a plus aucune valeur. Mmh. Et on n'a pas cette information-là. Si l'État pouvait nous garantir que la donnée est vraiment détruite, je me sentirais un peu mieux, je n'ai aucune garantie, et si j'étais l'État, eh ben, je ne la détruirais pas, moi, la donnée.
Ah, pourquoi ?
Ben non, parce que, alors justement, là, c'est propre à notre métier, mais... La donnée, c'est du renseignement. Et le renseignement, c'est quelque chose qui est absolument indispensable au maintien de la souveraineté régalienne d'un État. C'est la première chose qui le protège. Et l'État n'est pas en guerre contre ses citoyens, mais sait-on jamais. Donc, par définition, si je ne suis pas structurellement obligé de la détruire et que j'ai un moyen plus ou moins douteux de pouvoir la garder, ben, je ne m'en priverai pas, non.
Ah, mais c'est totalement Orwellien, mais ce que vous dites, c'est le contrôle des données.
Oui, mais le problème, c'est que on n'a personne aujourd'hui qui pourra l'affirmer ou l'infirmer. Donc du coup, je doute. Donc du coup, j'installe pas.
Merci encore à France Imbervière, PDG du Bécom. Quant à Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast d'actualité. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, que ce soit par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Ico ou encore TukTak. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve très vite. Portez-vous bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.